Le Doge et la Dogaresse, chapitre 2. Hélas, ma bonne mère, je ne sais que trop bien que les auteurs de mes jours vivaient dans la plus grande aisance. Mais mon esprit n'a gardé aucun souvenir de ce qu'ils étaient, ni de la manière dont je fus séparé d'eux. Je me rappelle fort bien un bel homme de grande taille, qui me prenait souvent dans ses bras, me caressait, me mettait des bonbons dans la bouche. J'ai souvenance aussi d'une aimable et jolie femme qui m'habillait, me déshabillait, qui chaque soir me mettait dans un petit lit bien doux et avait enfin une foule de bonnes attentions pour moi. Tous les deux me parlaient dans une langue étrangère et sonore, et moi-même je bégayais avec eux quelques mots de la même langue. Quand j'étais rameur, les camarades qui m'en voulaient avaient coutume de dire que mes cheveux, mes yeux et la structure de tout mon corps indiquaient mon origine allemande. Je crois aussi que c'était en allemand que me parlaient ceux qui avaient soin de moi, et l'homme était certainement mon père. Le souvenir le plus vif qui me soit resté de cette époque, c'est l'image d'une nuit d'horreur dans laquelle je fus réveillé de mon profond sommeil par un affreux cri de désespoir. On courait, çà et là, dans la maison, les portes s'ouvraient, se refermaient avec fracas. Je fus saisi de terreur et je me pris à sangloter bruyamment. La femme qui veillait sur moi accourut tout à coup. Elle m'enveloppa de mon lit, m'enleva de mon lit, me ferma la bouche, m'enveloppa dans un drap et s'enfuit avec moi. Bien depuis cet événement, mes souvenirs se perdent. Je me retrouve plus tard dans une maison magnifique située dans un pays des plus riants. Je me retrace la figure d'un homme que j'appelais du nom de père et qui était un seigneur accompli, à l'air noble et bienveillant. Il parlait italien ainsi que tous les habitants de la maison. J'avais cessé de le voir depuis plusieurs semaines quand des étrangers de mauvaise mine vinrent un jour chez nous. Ils firent un grand vacarme et mirent tout en désordre. En me voyant, ils me demandèrent qui j'étais et ce que je faisais dans la maison. « Mais je suis Antonio, le fils de la maison. » À cette réponse, ils me rirent au nez, me dépouillèrent de mes beaux habits et me pourchassèrent hors du logis avec menace de me recevoir à coups de bâton si j'osais y reparaître. Je me sauvai en poussant de grands gémissements. À 100 pas environ de la maison, je rencontrai un homme âgé que je reconnus pour un domestique de mon père adoptif. « Viens, Antonio, » dit-il en me prenant par la main, « viens, Antonio, pauvre garçon. Cette demeure nous est fermée à jamais, à tous deux. Il faut que nous tâchions à présent de voir où nous trouverons un morceau de pain. » Le vieux m'emmena avec lui. Il n'était pas aussi pauvre qu'on pouvait le supposer d'après ses méchants habits. À peine arrivé où il me mena, je le vis tirer plus d'un sequin de son pourpoint déchiré, et il passait toute la journée au Rialto à faire tantôt le courtage, tantôt des marchés pour son propre compte. Moi, j'avais pour consigne de rester constamment derrière lui, et il ne manquait jamais, dès qu'il avait conclu un marché, de demander en outre une bagatelle pour le figliolo, le petit bonhomme. Mon air décidé provoquait les acheteurs à lâcher encore 2 ou 3 quattrini que le vieux empochait avec une satisfaction marquée en me caressant les joues et en me répétant qu'il mettait tout cela de côté pour m'acheter un habit neuf. Je me trouvais réellement bien chez le vieux que l'on appelait partout, je ne savais pas pourquoi, père Blaunas. Mais cela ne dura pas longtemps. Tu te souviens, la vieille, de ce jour terrible où la terre se mit à trembler, où l'on vit les tours et les palais vaciller, ébranlés jusque dans leurs fondements, où les cloches sonnèrent d'elles-mêmes comme agitées par des bras de géants invisibles. 7 ans sont à peine écoulés depuis cette catastrophe. Je m'échappai heureusement avec le vieillard de sa maison qui s'écroula derrière nous. Toutes les affaires avaient cessé, tout était sur Rialto dans une bande stupeur. Mais cet horrible fléau ne fut que le précurseur du monstre dévorant qui s'approchait et qui bientôt exhala sur la contrée et sur la ville son souffle empoisonné. On savait que la peste, qui avait pénétré du Levant en Sicile, exerçait déjà ses ravages dans la Toscane. Mais Venise n'en était pas encore infestée. Or, un jour, le petit père Blaonas négociait sur le Rialto avec un Arménien. Ils étaient d'accord sur le marché et se donnèrent une poignée de main amicale. Le petit père avait cédé à l'Arménien à bas prix quelques bons articles et il réclama, suivant son habitude, la bagatelle per il figliuolo. L'Arménien, un homme grand et fort, avec une barbe épaisse et crépue, oh, il me semble encore le voir, me regarda avec complaisance, puis il m'embrassa et me mit dans la main un couple de sequins que je serrai promptement dans ma poche. Nous gagnâmes en gondole la place Saint-Marc. Chemin faisant, père Blaonas me demanda les sequins. Je ne sais comment je m'y pris pour appuyer mon droit à les garder moi-même, puisque telle avait été l'intention de l'Arménien. Le vieillard prit de l'humeur, mais pendant qu'il me querellait, j'observai que son visage se couvrait d'une vilaine teinte jaune et terreuse, et qu'il mêlait à son discours une foule de propos décousus et extravagants. Arrivé sur la place, il chancela quelque temps comme un homme ivre, et puis il tomba raide mort tout près du palais ducal. Je me précipitai sur son cadavre avec de grands cris de désespoir. Le peuple accourut en foule, mais dès qu'une voix eut lancé le terrible « La peste ! La peste !» tout se dispersa avec épouvante. Dans cet instant, je fus saisi d'un vague étourdissement et je perdis connaissance. À mon réveil, je me trouvais dans une vaste pièce, sur un mince matelas enveloppé d'une couverture de laine. Autour de moi étaient étendus de la même manière aux 20 ou 30 individus, pâles et souffreteux. Comme je l'appris plus tard, des moines compatissants qui sortaient de Saint-Marc, ayant trouvé en moi un signe de vie, m'avaient fait porter dans une gondole, et ensuite à la Giudecca, au couvent de San Giorgio Maggiore, où les bénédictins avaient fondé un hôpital. Oh, comment te décrire, ô vieille, ce monument de triste réveil ? La violence du mal m'avait entièrement ravi la mémoire du passé. Semblable à une statue froide et insensible, douée subitement d'animation et du feu vital, pour moi il n'y avait qu'une existence présente qui ne se rattachait à rien. Tu peux t'imaginer, la vieille, quelle désolation, quel désespoir devait me causer une vie pareille, où réduit à la conscience de son être, on nage en se débattant dans le vide, sans but et sans appui. Les moines ne purent rien m'apprendre, sinon qu'on m'avait trouvé près du père Blaonas, de qui le passait pour être le fils. Peu à peu, je recueillis mes idées, je retrouvais des traces de ma vie antérieure. Mais ce que je t'ai raconté, la vieille, est tout ce que j'en sais à présent, et ce ne sont hélas que des traits disjoints et sans aucune liaison. Ah, cet inconsolable isolement dans le monde ne me laisse goûter aucune satisfaction, quelque prospérité qui me favorise. Tonino, mon bien-aimé Tonino, dit la vieille, visiblement attendrie, contente-toi de ton bonheur présent. Mais tais-toi, vieille, reprit Antonio, tais-toi. Il y a encore autre chose qui me rend la vie pénible, qui me poursuit sans relâche et qui, tôt ou tard, me perdra sans remède. Un désir inexprimable, un désir dévorant, qui m'entraîne vers quelque chose que je ne saurais nommer, que je ne peux pas définir, s'est emparé de tout mon être depuis mon retour à la vie dans cet hôpital. Quand j'étais pauvre et misérable, et quand, fatigué, harassé par les labeurs de mon rude métier, je reposais la nuit couché sur la dure, les songes me visitaient alors, et rafraîchissant mon front brûlant de leur souffle léger, me versaient l'illusion d'une félicité vague et absolue que je savourais comme un avant-goût des délices du ciel dont la foi intime repose dans mon âme. Maintenant, je dors sur des coussins moelleux et aucune tâche pénible n'use ma vigueur. Mais si j'oublie mon nouveau rêve et si l'image de cette époque se représente à mon esprit, je sens que ma triste existence à l'abandon me pèse, non moins qu'autrefois, comme un fardeau bien lourd dont j'éprouve la tentation de me débarrasser. En vain je m'examine, en vain je m'interroge. Je ne puis deviner quelle fut, dans ma vie antérieure, l'impression si délicieuse dont l'écho indécis et inintelligible, hélas, pour moi, me remplit encore d'un tel sentiment de bonheur. Et comment cette émotion ne se changerait-elle pas en cuisante douleur, en mortel supplice, si je suis forcé de renoncer à tout espoir, de retrouver cet Éden inconnu et même à l'idée d'en tenter la recherche? Peut-on découvrir les traces de ce qui a disparu sans en laisser? Antonio se tut et un profond soupir s'échappa de son sein. La vieille, pendant sa narration, s'était démenée comme quelqu'un qui, sympathisant à la souffrance d'autrui, s'émeut de tout ce qu'on lui dépeint et rend, ainsi qu'un miroir fidèle, chaque mouvement douloureux exprimé par celui qui parle. « Tonino, » dit-elle alors d'une voix sanglotante, « mon cher Tonino, tu te désespères pour une émotion de sublime bonheur dont tu crois avoir joui et dont le souvenir exact s'est effacé. Mais folle enfant, enfant insensé, prends garde, hi, hi, hi. » Et la vieille recommença, selon son habitude, ses ricanements désagréables et se mit à sautiller sur le palier de marbre. Du monde vint à passer, elle se prosterna et on lui jeta des aumônes. Antonio, Antonio, cria-t-elle soudain, emporte-moi, emporte-moi vers la mer. Antonio, sans se consulter, mais presque involontairement, prit la vieille par le bras et la conduisit lentement à travers la place Saint-Marc. Tout en marchant, la vieille murmurait à voix basse et d'un air solennel « Antonio, ne vois-tu pas les noires taches de sang sur le pavé ?»« Oui, du sang, oh, beaucoup de sang partout. Mais du sang naissent des roses, de belles roses rouges, pour te tresser une couronne, Antonio, pour ta bien-aimée. Oh, Seigneur de nos âmes, quel est cet ange de lumière ravissant qui s'avance vers toi si gracieux et avec un sourire aussi pur que le firmament? Ses bras blancs comme les lys s'ouvrent pour t'accueillir. Oh, Antonio, enfant bienheureux, courage, courage! Et ta main cueillera des myrtes au coucher du soleil, des myrtes pour la fiancée, pour la jeune veuve, hi, hi, hi. Des myrtes cueillies pendant le coucher du soleil, mais ils ne fleurissent qu'à minuit. Entends-tu bien le murmure du vent du soir, le bruissement plaintif de la mer? Rame courageusement, hardi gondolier, rame courageusement. Antonio se sentit pénétré d'effroi au singulier discours de la vieille, qui n'avait pas cessé de ricaner et dont la voix avait un accent étrange. Ils étaient arrivés près de la colonne que surmonte le Lion Adriatique. La vieille voulait passer outre tout en continuant à marmotter. Antonio, irrité contre elle et voyant l'attention des promeneurs provoquée sur lui par sa compagnie, s'arrêta là et d'une voix brusque. « Un moment, dit-il, assieds-toi là sur ces degrés, vieille, et fais trêve à ton verbiage qui finirait par me rendre fou. Il est vrai, tu m'as prédit les sequins à la vue des nuages dorés, mais que me comptes-tu là d'ange de lumière, de fiancée, de jeune veuve, de rose et de myrte? Veux-tu donc me duper, affreuse vieille, pour qu'une folle témérité me précipite dans l'abîme. Oui, tu auras un nouveau capuchon, du pain, des sequins, tout ce que tu désires, mais laisse-moi. » Antonio allait s'éloigner rapidement, mais la vieille le saisit par son manteau et s'écria d'une voix glapissante : « Tonino, mon Tonino, regarde-moi, une seule fois encore. Sinon, il faudra que j'aille là-bas, au bout de la place, et que je me précipite dans la mer. » Antonio, pour ne pas attirer plus de regards curieux qu'il y en avait déjà de diriger sur lui, resta effectivement en place. « Tonino, continua la vieille, assieds-toi là près de moi, j'ai quelque chose sur le cœur qu'il faut que je te confie. Bon, assieds-toi là près de moi. » Antonio s'assit sur les marches de manière à tourner le dos à la vieille, et il tira de sa poche son calepin dont les feuilles blanches témoignaient de l'activité de ses affaires commerciales sur le Rialto.
« Tonino !» dit alors la vieille à voix basse. « Tonino, quand tu considères ma figure ridée, n'as-tu aucun soupçon de m'avoir déjà connu à une époque bien antérieure ?»«
Bien, je t'ai déjà dit, » répondit Antonio, tout bas aussi, et sans se retourner. « Je t'ai déjà dit, la vieille, que j'éprouve pour toi un penchant irrésistible, mais c'est pas à cause de ta laide figure toute ridée. Bien au contraire, quand j'examine tes yeux hagards, noirs et étincelants, ton nez allongé, tes lèvres violettes, ton menton avancé, tes cheveux mats de blancheur et de confusément épars, quand j'entends surtout ton rire, ton ricanement diabolique et tes mystérieux discours, oh, mais alors je suis disposé à te fuir avec horreur et à croire que tu te mets en œuvre quelque infâme sortilège pour m'attirer à toi.
Oh, Seigneur du ciel ! S'écria la vieille avec l'accent d'une douleur sans égale. Mais quel funeste démon a pu t'inspirer d'aussi affreuses pensées ? Oh, Tonino, mon doux Tonino ! Cette femme qui prenait tant de soin de toi dans ton enfance, qui dans cette nuit de terreur te sauva d'un danger de mort, cette femme, eh bien, c'était moi. »
Antonio, saisi, se retourna vivement, mais quand il eut regardé en face le visage repoussant de la vieille, il s'écria avec colère : crois-tu m'abuser de la sorte, vieille folle maudite ? Les rares souvenirs qui me sont restés de mon jeune âge sont pour moi vivants et frais encore. Oui, la femme charmante et bonne qui prenait soin de moi, oui, je crois la voir encore présente devant moi. Elle avait un visage plein, frais et rosé, des yeux doux, de beaux cheveux bruns, de jolies mains. Elle pouvait avoir tout au plus 30 ans. Et toi ? Une petite mère de 90 ans.
Oh, par tous les saints, interrompit la vieille en sanglotant, mais comment faire pour que mon Tonino croie à ma parole, croie à sa fidèle Margaretta ?
Margaretta, murmura Antonio, Margaretta ! Ce nom résonne à mon oreille comme un air entendu il y a bien longtemps et depuis oublié. « Mais ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible !» La vieille reprit plus tranquillement, les regards baissés, promenant l'extrémité de son bâton à terre.
« C'est la vérité. Cet homme grand et beau qui te prenait dans ses bras, te caressait, te mettait des sucreries dans la bouche. Oui, c'était bien ton père, Tonino. » C'était en effet la belle et sonore langue allemande que nous parlions, lui et moi. Ton père était un négociant d'Augsbourg, riche et considéré. Sa jeune et jolie femme mourut en te mettant au monde, alors il partit pour Venise, ne pouvant demeurer sur les lieux qui renfermaient la dépouille de ce qu'il avait de plus cher. Il m'emmena avec lui, moi, ta nourrice. Et dans cette nuit que tu te rappelles, ton père succomba à un sort funeste qui te menaçait comme lui. Je réussis à te sauver, Un noble Vénitien t'accueillit, et quant à moi, dénué de toute ressource, il me fallut rester à Venise. Mon père, un chirurgien à qui l'on reprochait de pratiquer aussi les sciences occultes, m'avait fait connaître dès ma jeunesse les secrètes propriétés de la médecine naturelle. J'appris de lui, en parcourant les champs et les forêts, à distinguer plusieurs herbes salutaires, plusieurs mousses inconnues. Il m'instruisit de l'heure à laquelle il fallait les cueillir et des proportions de leur mélange avec les sirops. Mais à cette science acquise, Dieu associa un don particulier qu'il m'accorda dans un dessein que j'ignore. Je vois souvent, comme dans un miroir éloigné et trouble, les images d'événements futurs et l'impulsion surhumaine à laquelle je ne puis résister me forcent alors, malgré moi, à parler de ce que j'ai vu dans un langage souvent inintelligible, même pour moi-même. Alors, lorsque je me vis seul à Venise, abandonné du monde entier, je pensais à gagner ma vie au moyen de mes connaissances médicales. Je tardais pas à opérer des cures merveilleuses. Bien plus, il arriva que ma présence seule agissait favorablement sur les malades, et que souvent le simple attouchement de mes mains suffisait pour résoudre les crises les plus graves. Je ne pouvais manquer de voir ma réputation se propager dans la ville et l'argent abonder chez moi. Alors bientôt, ce succès éveilla la jalousie des empiriques, des charlatans, qui vendaient sur la place Saint-Marc, au Rialto, à la Zecca, leurs pilules, leurs essences, et qui empoisonnaient les malades au lieu de les guérir. Ils répandirent le bruit que j'avais fait un pacte avec Satan en personne, et la superstition populaire accueillit cette calomnie. Peu de temps après, je fus arrêté et traduit devant le tribunal ecclésiastique. Oh, mon Tonino, par quelles affreuses tortures on tenta de m'arracher l'aveu du pacte le plus abominable. Je restais ferme. Alors mes cheveux blanchirent, mes pieds et mes mains furent disloqués, mon corps se rabougrit comme une momie. Mais je n'avais pas encore subi la torture la plus atroce, le dernier raffinement de la cruauté la plus infernale. Elle m'arracha cet aveu dont le souvenir me fait frissonner encore. Je devais être brûlé. Bref, lors du tremblement de terre qui ébranla les murailles des palais et celles de la grande prison, les portes de mon cachot s'ouvrirent d'elles-mêmes et je pris la fuite, en chancelant, comme rappelé du fond de la tombe, à travers les ruines et les décombres. Hélas, Tonino, tu m'as appelé une vieille femme de 90 ans, et j'ai à peine 50 ans. Ce corps hétique, ce visage horriblement sillonné, ces cheveux blanchis, ces pieds déboîtés. Non, ce n'est point l'âge, mais ce sont des supplices inouïs qui ont su métamorphoser en peu de mois la femme valide en un monstre hideux. Et ce rire suffocant et intolérable, cette dernière torture à l'idée de laquelle je sens mes cheveux se hérisser et mon corps s'embraser comme au contact d'une armure brûlante, c'est elle qui me l'a arraché, et le pylore qui s'empare de moi comme une crampe tenace et irrésistible. N'aie plus horreur de moi à présent, mon Tonino. Ah, ton cœur l'a révélé, j'en suis certaine. Qu'enfant tu reposais sur mon sein. Femme, femme, dit Antonio d'une voix sonore et d'un air préoccupé. Certes, il me semble que je dois te croire. Mais qui était mon père? Comment se nommait-il? À quel destin fatal a-t-il succombé dans cette nuit de terreur? Quel était l'homme qui me recueillit et quel fut l'événement de ma vie passée qui domine et maîtrise encore aujourd'hui tout mon être, comme une révélation enchantée d'un monde inconnu et mystérieux, au point de confondre et d'égarer toutes mes pensées dans une mer de doutes et de ténèbres. Il faut que tu m'apprennes cela, femme énigmatique. Alors, là, je te croirai. Tonino, répliqua la vieille en soupirant, je dois me taire dans ton intérêt. Mais bientôt, oui, bientôt il sera temps. Le Fontego, le Fontego, ne va pas au Fontego.
Oh, s'écria Antonio irrité, tes paroles sont inutiles à présent pour me capter avec ton art réprouvé. Mon cœur est ulcéré, il faut que tu parles ou... Arrête, interrompit la vieille. Des menaces à ta fidèle nourrice, à celle qui prit soin de ton enfance? Sans attendre ce que la vieille était prête d'ajouter, Antonio se leva et s'éloigna rapidement. Il lui cria à distance, « Tu n'en auras pas moins le capuchon neuf et par-dessus autant de sequins que tu voudras !» C'était en effet un étrange spectacle que celui du vieux doge Marino Falieri avec sa jeune épouse. Lui, à la vérité, encore assez fort et robuste, mais avec sa barbe toute grise, le visage sillonné de rides, la tête inclinée, la démarche pesante et pathétique, elle, la grâce en personne, d'une beauté céleste et de l'aspect le plus suave, son regard langoureux animé d'une irrésistible magie, son front pur et blanc comme le lys et ombragé de magnifiques cheveux bruns, empreint à la fois d'une dignité ferte et d'une aménité pleine de noblesse, un doux sourire se jouait sur ses lèvres et semblait colorer ses joues. À sa petite tête penchée avec une modestie charmante, à sa démarche dégagée, on croyait la voir svelte et légère, mollement soulevée par les vagues. Exquise créature, miraculeux modèle de femme prête à la terre, par le ciel, sa véritable patrie. Vous connaissez ces figures angéliques que les anciens peintres savaient si bien imaginer et retracer. Bien telle était Annunciata. Comment donc chacun à sa vue ne serait-il pas tombé dans une extase ravissante? Quel jeune patricien aurait pu ne pas s'enflammer, ne pas jurer dans son ardeur, en jetant sur le vieillard un coup d'œil de dérision, qu'il deviendrait, quoi qu'il pût en coûter, le Mars rival de ce nouveau Vulcain? Annunciata se vit bientôt entourée d'adorateurs, dont elle accueillait les discours flatteurs et séduisants en silence, et d'un air bienveillant, sans aucune arrière-pensée. Ses rapports avec son vénérable époux n'avaient rien révélé à son âme pure, sinon qu'elle devait l'honorer comme un seigneur et maître, et lui être soumise avec le dévouement absolu d'une fidèle servante. Il était affable, il était même tendre pour elle. Il la pressait contre son sein glacé, l'appelait sa bien-aimée, lui faisait présent de tout ce qu'il pouvait trouver de plus précieux. Quel désir restait à former à Annunciata, et quelle avait-elle à prétendre de plus de sa part? Ainsi, son esprit ne pouvait même concevoir la pensée de devenir infidèle au vieux Falieri. Tout ce qui était au-delà du cercle étroit de leurs relations restreintes appartenait à une sphère interdite, dont la limite même restait pour Annunciata indifférente, voilée d'un nuage épais et mystérieux, et n'éveillait pas le moindre soupçon au cœur naïf de l'aimable enfant. Aussi toutes les tentatives demeuraient infructueuses. Toutefois, aucun des courtisans de la belle Dogarès n'était aussi violemment possédé d'un amoureux délire que Michel Steno. Malgré sa jeunesse, il était investi de la charge importante et supérieure de membre du Conseil des 40. Fier de ce titre et comptant aussi sur ses avantages extérieurs, il ne mettait pas son triomphe en doute. Le vieux Marino Fieri lui portait peu d'ombrage, et en effet, depuis son mariage, sa colère bouillante et sa rudesse indomptable semblaient l'avoir abandonné. On le voyait assis à côté de la belle Annunciata, richement vêtue et recherchée dans sa toilette, le sourire sur les lèvres. Et dans ses yeux gris, d'où parfois s'échappait une petite larme, un regard doucement provocateur semblait défier aucun autre de pouvoir se vanter de posséder un pareil trésor. Au lieu du ton rude et impératif dont il se servait autrefois,
Il remet à peine les lèvres en parlant, donnait du très cher à tout le monde et accordait les demandes les plus extravagantes. Qui aurait pu reconnaître dans ce vieillard amoureux et efféminé le vainqueur du valeureux Montbassan et ce Falieri qui, dans un fol accès de courroux, frappa un jour de fête-dieu l'évêque de Trévise au visage? Cet excès de faiblesse enhardit Michel Steno à tenter les entreprises les plus insensées. Annunciata, ne comprenant rien à ce que Michel voulait d'elle, en la persécutant de ses regards et de ses compliments, ne se départit point de sa douce affabilité ni de son calme habituel. Et ce calme constant et cette naïveté virginale qui promettait à son poursuivant si peu de consolation, mirent celui-ci au désespoir. Alors il songea à recourir à d'infâmes moyens. Il parvint à nouer une intrigue galante avec la femme de chambre favorite d'Annunciata et en obtint des rendez-vous nocturnes. Il crut ainsi s'être frayé la route de l'appartement non encore profané d'Annunciata. Mais la Providence fit retomber sur la tête de son perfide auteur cette coupable manœuvre. Une nuit que le doge venait de recevoir la mauvaise nouvelle de la bataille perdue par Niccolò Pisani contre Doria, près de Portolongo, comme il parcourait dans son insomnie et dévorait d'inquiétude les galeries du palais ducal, il aperçut tout à coup, du côté des appartements d'Annunciata, une ombre s'échapper et se glisser vers les escaliers. Il s'élança aussitôt. C'était Michel Steno qui sortait de chez sa maîtresse. Une affreuse pensée se présenta à Falieri. « Annunciata ! » cria-t-il. Il se précipita sur Steno, le stylet à la main. Mais Steno, plus agile et plus vigoureux que le vieillard, esquiva le coup, renversa d'un violent coup de poing le doge à terre et franchit d'un bond les escaliers en répétant avec un rire moqueur « Annunciata, Annunciata !» Le vieillard se releva et, le cœur torturé par mille angoisses, se dirigea vers la chambre d'Annunciata. Tout était tranquille, silencieux comme l'abord d'un tombeau. Il frappa, une femme de chambre inconnue, au lieu de celle qui couchait habituellement dans le voisinage d'Annunciata, lui ouvrit la porte. « Que désire et qu'ordonne mon seigneur et époux à cette heure tardive et inaccoutumée ?» dit d'une voix assurée et avec une douceur d'ange Annunciata, qui, ayant revêtu à la hâte un léger vêtement de nuit, venait d'ouvrir sa porte. Le vieillard la regarda fixement, puis il leva ses mains jointes et s'écria « Non, non, c'est pas possible! C'est pas possible !»« Mais quoi donc n'est pas possible, mon royal époux ?» demanda Annunciata, émue du ton sombre et solennel du vieillard. Mais Falieri se tourna sans répondre vers la femme de chambre. « Mais pourquoi couches-tu ici? Pourquoi n'est-ce pas Luigia qui est ici comme à l'ordinaire ?» « Ah !» répliqua la petite, « oh, Luigia a voulu absolument que je prisse sa place pour cette nuit. Elle est couchée dans la première chambre, tout près de l'escalier. »« Ah, tout près de l'escalier !» s'écria Falieri avec joie. Il se dirigea à grands pas vers la première chambre. Luigia ouvrit en entendant frapper à cour doublé, et quand elle vit le doge rouge de colère et les yeux flamboyants devant elle, elle tomba sur ses genoux à moitié nue et avoua sa honte, sur laquelle d'ailleurs empêchait de garder aucun doute une élégante paire de gants d'homme restée sur un fauteuil et dont l'odeur d'ambre trahissait le petit maître à qui ils appartenaient. Furieux de l'impudence inouïe de Steno, le doge lui écrivit dans la matinée suivante que, sous peine de bannissement de la ville, il eut à éviter d'approcher du palais ducal, ainsi que de sa personne et de celle de la Dogaresse. Michel Steno était plein de rage d'avoir vu échouer son plan diabolique. L'ordre injurieux d'une séquestration loin de son idole y mit le comble. Réduit à voir de loin la Dogarès, s'entretenant avec d'autres jeunes seigneurs de l'air gracieux et bienveillant qui lui était naturel, l'envie, le délire de la passion lui inspirèrent l'odieuse pensée que peut-être la Dogarès ne l'avait dédaigné que parce que d'autres plus heureux l'avaient prévenu auprès d'elle, et il eut l'audace d'en parler hautement et publiquement. Dans cette conjoncture, soit que le vieux Falieri eût eu connaissance de ses insolents propos, soit que le souvenir de cette nuit le frappa comme le présage d'un destin funeste, soit enfin que, malgré sa confiance absolue dans la sagesse de sa femme, malgré leur paisible et bonne intelligence, il entrevit un imminent danger dans le disparate d'une association peu naturelle. Bref, il devint chagrin et morne et tourmenté par le venin d'une jalousie infernale. Il relégua Annunciata dans les appartements intérieurs du palais ducal, où personne n'avait permission de pénétrer jusqu'à elle. Baudoëri prit fait et cause pour sa petite nièce et fit de vifs reproches au vieux Falieri, qui ne voulut cependant revenir en rien sur sa détermination. Tout cela se passait peu de temps avant le Jeudi Gras. Il était en usage que, pendant les fêtes populaires qui ont lieu à cette occasion sur la place Saint-Marc, la Dogarès prenne place auprès du doge sous un deck qui surmonte une galerie établie vis-à-vis de la Piazzetta. Baudoëri rappela au doge cette circonstance et lui dit qu'à son avis, ce serait un manque de bon sens si, contrairement à l'habitude et à toutes les traditions, il privait Annunciata de cet honneur, exprimant combien le peuple, autant que la seigneurie, se moquerait de son procédé et de son injuste jalousie. « Crois-tu donc, répliqua le vieux Falieri, sentant son orgueil stimulé, « crois-tu que, tel qu'un vieux fou imbécile, je craigne de produire au grand jour mon précieux trésor, de peur qu'on me le ravisse et que je ne puisse empêcher ce larcin grâce à ma bonne épée ?»« Non, vieux, tu te trompes. Dès demain, je veux me montrer solennellement avec Annunciata, suivi d'un splendide cortège sur la place Saint-Marc, afin que le peuple salue sa Dogarès. » Et le Jeudi Gras, elle recevra l'offrande du hardi matelot qui doit s'élancer du haut des airs, le bouquet de fleurs à la main. Le doge faisait allusion à une vieille coutume vénitienne. Le Jeudi Gras, un homme du peuple, entreprenant, monte dans une machine en forme de nacelle, suspendue à une corde qui plonge d'un côté dans la mer et de l'autre est fixée aux fêtes de la tour de Saint-Marc, et de là il glisse avec la rapidité d'une flèche jusqu'à la place où siègent le doge et la Dogarès, à laquelle il présente le bouquet de fleurs quand le doge n'est pas seul. Le jour suivant, le doge fit ce qu'il avait annoncé. Il fit revêtir à Annunciata le costume le plus magnifique et, escorté de la seigneurie, suivi de gardes et de pages, Falieri traversa la place Saint-Marc inondée de peuple. On se pressait, on se poussait à risquer la vie pour voir la belle Dogarès, et chacun de ceux qui y parvenaient disait avoir vu le paradis entr'ouvert et croyait à la merveilleuse apparition de quelque figure d'ange radieuse et éblouissante. Mais les Vénitiens sont ainsi faits. Au milieu des transports les plus excessifs de l'admiration, on entendait, de côté et d'autre, maints propos railleurs, maints rudes brocards décochés contre le vieux Falieri au sujet de sa jeune épouse. Falieri paraissait ne pas s'en apercevoir. Mais, oubliant pour cette fois toute idée de jalousie, il marchait à côté d'Annunciata, aussi pathétiquement que possible, et souriait avec complaisance, quoiqu'il pût voir sa belle épouse en proie de toutes parts à mille regards dardant sur elle les flammes d'un désir effréné. Les gardes avaient, quoiqu'avec peine, écarté la foule du peuple devant la porte principale du palais, de sorte que le doge, y étant arrivé avec sa femme, n'y trouva que quelques groupes de bourgeois bien vêtus, auxquels on n'avait pas pu refuser l'entrée de la cour intérieure du palais. Il arriva qu'au moment où la dogaresse pénétrait dans la cour, un jeune homme, qui avec plusieurs autres personnes se tenait sous la colonnade, tomba raide, sans connaissance, sur le pavé de marbre après s'être écrié « Ô Dieu du ciel !» Tout le monde accourut et l'on entoura le corps, ce qui le déroba aux yeux de la dogaresse. Mais en même temps que le jeune homme était tombé, elle éprouva la sensation brûlante d'un coup de poignard qui aurait traversé sa poitrine. Elle pâlit et chancela. Les flacons d'odeur que lui firent respirer les femmes empressées à la secourir purent seuls la préserver d'un évanouissement complet. Le vieux Falieri, saisi d'effroi et consterné de cet accident, voit tous les diables le jeune homme avec son coup de sang. Il prit dans ses bras son Annunciata, qui tenait ses yeux fermés et sa petite tête penchée sur la poitrine comme une tourterelle malade, et il la porta, après l'avoir monté l'escalier, et malgré la fatigue qu'il en éprouvait, jusque dans ses appartements intérieurs. Cependant, un spectacle singulier et surprenant occupait le peuple qui avait continué de s'attrouper dans la cour intérieure du palais. On se disposait à relever le jeune homme qu'on tenait positivement pour mort et à l'emporter, quand une vieille femme hideuse et en haillons s'approcha en clopinant. Et poussant des cris de désespoir, elle se fit jour à travers les groupes les plus compacts, à l'aide de ses coudes aigus dont elle tourmentait les côtes des opposants. Quand elle fut arrivée auprès du jeune homme inanimé, « Laissez-le à terre » s'écria-t-elle, « fou, gens stupides, il n'est pas mort !» En même temps, elle s'accroupit à côté de lui, posa sa tête sur ses genoux et l'appela en frottant doucement son front des noms les plus tendres. À contempler l'affreuse figure de la grimaçante vieille penchée sur le charmant visage du jeune homme, dont les traits pleins de douceur offraient la pâleur et l'immobilité de la mort, en contraste avec l'agitation convulsive et repoussante des muscles de la vieille, à voir ses haillons souillés pendre au-dessus des riches habits que portait l'étranger, ses bras décharnés et d'un brun jaune, ses mains osseuses qui tremblaient sur le front, sur la poitrine nue du jeune homme, il était difficile de se défendre d'une secrète horreur. On eût cru voir en effet la mort elle-même avec sa hideuse figure tenant sa proie dans ses bras. Aussi les assistants s'éloignèrent-ils bientôt lentement l'un après l'autre. Il ne resta que quelques personnes qui soulevèrent le jeune homme quand il rouvrit enfin les yeux en poussant un profond soupir et le transportèrent sur l'indication de la vieille près du grand canal. Là, une gondole les reçut tous les deux, le cavalier et la vieille, et les conduisit à la maison que celle-ci désigna pour la demeure du jeune homme. N'est-il pas superflu de dire que ce jeune homme était Antonio et la vieille, la mendiante du portail des franciscains, qui prétendait obstinément avoir été sa nourrice. Lorsqu'Antonio fut tout à fait revenu de son étourdissement, et qu'il aperçut auprès de son lit la vieille qui venait de lui faire prendre quelques gouttes d'une potion fortifiante, après l'avoir considéré longtemps fixement et d'un regard triste et morne, il lui dit d'une voix affaiblie, « Tu es auprès de moi, Margaretha. Ah, tant mieux. Où ai-je pu trouver une plus fidèle amie que toi? Oh, pardonne-moi, ma mère, si j'ai pu, enfant insensé, douter un seul instant de ce que tu m'as révélé. Oui, oui, tu es cette Margaretha qui m'a nourri, qui m'a soigné et surveillé. Oh, je le savais bien depuis bien longtemps, mais un mauvais esprit avait mis le trouble dans mes idées. Je l'ai vue, oui, oh, c'est elle, oh, c'est bien elle. N'étais-je pas dit que je sens en moi certaines obsessions mystérieuses qui remplit tout mon être d'un tourment indicible. Vient le charme se dévoiler à mes yeux dessillés, et son éclat, dissipant les ténèbres, m'a plongé dans un ravissement inexprimable. Je sais tout à cette heure, tout. Bertuccione Molo, n'était-il pas mon père adoptif qui m'éleva dans sa maison de campagne près de Trévise? Hélas, oui, répondit la vieille. C'était bien Bertuccio de Nono, le grand capitaine de mer, que la mer engloutit quand il se préparait à placer sur son front le laurier de la victoire. Oh, ne m'interromps pas, continua Antonio, écoute-moi patiemment. Je vivais donc heureux chez Bertuccio de Nono. J'avais de beaux habits. Je trouvais toujours tout le service si j'avais faim. Je pouvais, quand j'avais récité mes trois prières, folâtrer à loisir dans le bois et dans la campagne. Tout près de la maison était un bois de pins, frais et sombre, tout parfumé, et le théâtre de mélodieux concerts. Un soir, que j'étais las de courir et de sauter, je m'étendis sous un grand arbre à l'heure où le soleil allait se coucher. Et je regardais en rêvant le fond bleu du ciel. Ce fut peut-être l'odeur aromatique des plantes verdoyantes sur lesquelles je reposais qui m'engourdit. Bref, mes yeux se fermèrent involontairement et je tombai dans une rêverie extatique dont je fus réveillé par un bruissement qui se fit dans l'herbe comme si quelque chose fût tombé près de moi. Je sautai sur mes pieds. Un ange au visage radieux était à mes côtés. Il me regardait avec une grâce ravissante et me dit d'une voix douce « Oh, cher enfant, comment dormais-tu si bien et si calme quand la mort était aussi proche de toi, la cruelle mort ?» J'aperçus alors une petite vipère noire à la tête velue à la place où j'étais couché. L'enfant divin avait tué avec une branche de noyer la bête venimeuse au moment où elle allait dresser son dard contre ma poitrine. Je frémis d'une légère impression d'effroi. Je n'ignorais pas que des anges étaient souvent descendus des cieux pour garantir par leur présence les hommes des atteintes menaçantes de quelque méchant ennemi. Alors je tombai à genoux, les mains jointes, et m'écriai « Ah, mais tu es un ange du firmament que le Seigneur a envoyé pour me préserver de la mort !» Mais la charmante créature étendit les bras vers moi et me dit, en rougissant, « Non, cher enfant, je ne suis pas un ange. Je suis une jeune fille, un enfant comme toi. » Ma crainte respectueuse fit place alors à une émotion de joie indéfinissable qui me pénétra d'une douce chaleur. Je me relevai, nous nous serrâmes étroitement, nos lèvres se rencontrèrent, éperdues, sans voix, pleurant avec délices, plongées dans une ineffable extase. Et tout à coup, une voix claire retentit dans le bois. Annunciata, Annunciata! Oh, il faut que je parte, cher enfant, mon doux ami. « Ma mère m'appelle !» murmura la jeune fille. Alors une douleur indicible s'empara de moi. « Oh, je t'aime tant !» dis-je en sanglotant. Et je sentis des larmes brûlantes tomber de ses beaux yeux sur mes joues. « Mais mon cœur t'aime aussi tendrement, cher enfant » dit-elle en imprimant un dernier baiser. « Annunciata !» cria-t-on de nouveau, et la jeune fille disparut dans le taillis. Vois-tu, Margaretha, ce fut alors que l'amour alluma dans mon âme cette vive étincelle qui, brûlant sans cesse d'une nouvelle flamme, consumera jusqu'au tombeau. Peu de jours après cette rencontre, je fus chassé de la maison. Le père Blaonas, à qui je ne me lassais pas de parler de l'apparition de cet enfant angélique, dont je croyais entendre la voix si douce dans le frémissement des feuilles, dans le murmure des fontaines, dans le bruit mystérieux des vagues. Eh bien, le père Blaonas m'assura que la jeune enfant devait être certainement la fille de Nenolo, Annunziata, amenée à la maison de campagne par sa mère Francesca, et repartie le lendemain. Ô ma mère, Margaretta, que le ciel m'assiste! Mais c'est Annunziata! C'est la Dogares! À ces mots, Antonio, saisi d'une horrible angoisse, se cacha en gémissant et en pleurant sous ses oreillers.